Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Les GG, ce qui a attiré mon attention cette semaine, c'est l'entretien de Lewis Hamilton dans le magazine L'Équipe. Écoutez bien, il est interrogé sur l'incompatibilité d'avoir une vie de famille en même temps qu'une carrière en Formule 1 alors qu'il a 40 ans et n'a pas d'enfant. Il dit ceci, Lewis Hamilton: je suis toujours impressionné par Federer, Djokovic et d'autres grands comme Tom Brady qui ont eu une vie de famille et continuent à performer. Pour moi, ça ne s'est juste pas produit, ce n'est pas une priorité. Ma priorité a été mon amour pour la Formule 1, l'amour de ma vie, c'est la F1. J'aime ce travail plus que tout, quelque chose doit forcément en pâtir, dit Lewis Hamilton. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle ensemble du haut niveau et du projet de famille. Est-ce que c'est compatible? On a deux hommes, deux femmes autour de la table. C'est intéressant parce qu'évidemment, autour de cette question, on a des visions différentes. On ne vit pas la même chose aussi. Jérôme, tiens, compatible au niveau et projet de famille?
Pour moi, ça l'a été. En revanche, je pense que c'est très compliqué, d'autant plus lorsque je vais laisser parler mes copines. Quand on est une femme, je pense, dans le sport, c'est déjà la position est très différente. Ça, c'est une certitude, parce que les choix sont forts et que il faut savoir les prendre au bon moment et mettre de côté certaines choses. Mais je pense que au-delà de cela, c'est plutôt ce qui correspond à ce qui se passe dans la société actuelle. C'est-à-dire que lorsque l'on a de l'ambition et qu'on a un poste à responsabilité, il y a forcément une partie de nous qui reste de côté. Il y a forcément des choix à faire. Moi, me concernant, j'ai pas eu ce souci-là et je suis dans une discipline qui me permet d'être à la maison quand je m'entraîne, par exemple. J'ai pas mis en mouvement ma famille. En revanche, l'après-carrière a été plus compliquée pour la gestion. Je pense que c'est, pour moi, en tout cas, une histoire de gestion du temps et du moment à mettre les choses en place. J'ai eu mes enfants très tôt, je me suis marié très tôt, et c'est l'après-carrière qui a été plus compliquée que pendant la carrière. Pourquoi ? Parce que j'ai pu donner les moyens et financiers et humains à ma famille de s'épanouir en parallèle. C'est pas sans moi, mais c'est en parallèle. Mes enfants, aujourd'hui, me reprochent rien, mais je sens qu'on manque forcément des pages quand on est loin, quand on n'est pas là, et puis on est très égoïste quand on est sportif. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je sais pas comment toi, Fred, même si on connaît un peu ton histoire maintenant grâce à ce documentaire, comment tu l'as vécu. Moi, s'il y avait des choses à changer pour performer, j'aurais rien changé. Pour ma vie d'après, j'aurais certainement changé des choses.
Ouais, effectivement, la vie de sportif et la vie d'après est complètement différente, mais moi je pense que c'est compatible. Et encore une fois, pour un homme, hein, je me m'immiscie pas pour.
Toi, t'es sur le oui, hein.
Moi, je suis plutôt sur okay. Le oui, mais il faut une organisation. Il faut quelqu'un qui t'accompagne, qui soit prêt à faire les efforts pour toi. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je me rappelle quand j'ai eu mon fils Enzo à Malaga. Et mon coach, c'était Božidar Maljković, donc je vous en ai parlé il y a pas longtemps. C'était un des plus grands coachs.
Hier, tu nous en as parlé.
Oui, il y a pas longtemps, donc. et de ce fait, lui me disait, à partir d'un moment, j'arrivais fatigué à l'entraînement, et il m'a dit: Fred, je veux plus que tu t'en occupes la nuit. Et moi, ça m'a choqué, en fait, dans l'absolu. Je me dis, je suis papa avant d'être sportif. Sauf que sportif, c'était aussi mon activité, c'était mon métier, c'était ce qui me rapportait d'argent à la famille. Donc, on a tous mis une organisation au point pour que je sois moins fatigué, pour que la maman de mon fils s'occupe d'Enzo le plus souvent possible, pour que j'ai moins de difficultés possibles et que je sois le moins fatigué quand j'arrive à l'entraînement. Donc, oui, mais il faut une organisation, il faut quelqu'un qui t'accompagne. Moi, je suis parti à 14 ans de chez moi, j'ai voulu créer une famille rapidement parce que je me sentais un peu abandonné, et j'avais envie de recréer ce cocon familial. Et nous, contrairement au cyclisme, quand tu fais du basket, alors je vais prendre l'exemple du basket, tu vis pas chez toi en fait, tu vis où ton club te décide de vivre, donc t'es obligé de bouger. Et partir seul, c'est parfois un peu compliqué. Donc j'ai voulu créer ce cocon familial rapidement, mais c'est vrai qu'il y a eu des adaptations, il y a eu des choses qui ont été obligées d'être faites. Et juste, je prends un exemple très concret. Un ancien de mes entraîneurs me disait que quand lui était joueur de basket, c'était un shooter, il ne portait jamais son bébé parce qu'il avait peur de déformer son shoot à force de muscler son bras. Donc à quel point il y a des gens qui sont sur cette performance absolue et parfois quand on est sportif, c'est pas aussi simple que ça d'avoir une famille.
On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport. Tiens, je vous donne une information RMC Sport rapidement. Bradley Barcola n'est pas dans le groupe pour OM-PSG. Hein, voilà, c'est une information RMC qu'il était important de vous donner tout de suite. Le vestiaire, le haut niveau et le projet de famille, est-ce compatible, Sarah? Bon, c'est important que vous écoutez.
Moi, je pense que c'est compatible et surtout qu'il y a une évolution ultra positive de la prise en considération pour les femmes de devenir maman dans leur carrière. C'est quelque chose qui prend petit à petit et bien sa place. Et moi, j'en suis extrêmement contente et fière. Et pour ma part, dans le tennis, au moment où j'arrête, j'ai envie effectivement de créer ma famille, mais ça se faisait pas en fait. C'était même pas envisageable d'arrêter pendant un moment sa carrière et de revenir. Parce que déjà, on n'était pas protégé au niveau du classement, ce qui a été mis en place par la WTA. Donc en fait, il n'y avait aucun cadre qui permettait de le faire. Et quand après des joueuses l'ont fait, j'étais super admirative et je me suis dit, tu vois, hier, je me disais, heureusement que j'ai pas fait ma carrière pendant qu'il y avait les réseaux sociaux, j'aurais eu du mal à vivre ces critiques systématiques pour un oui ou pour un non. Et moi, je regrette de ne pas avoir joué au moment où les lignes étaient en train de bouger, parce que j'aurais aimé le faire pour une raison. Alors, il y a l'organisation, c'est parce que le sport individuel, t'es auto-centré, et que j'aurais aimé jouer en me disant, je joue pas uniquement que pour moi. Peut-être qu'il y a un moment, quand je sors du cours, je vais avoir quelque chose qui va me faire du bien et je ne vais pas rester uniquement dans la défaite ou dans la victoire. Donc j'aurais eu le sentiment que ça aurait pu compléter mon émotion, le fait de me poser dans la vie. J'aurais aimé vivre ça pour voir quelle incidence positive ça pouvait avoir sur ma manière d'appréhender
les matchs.
C'est mon petit regret, en fait.
Tu relativises beaucoup, évidemment.
Moi, cette chose-là m'a aidé beaucoup.
Tu relativises, mais est-ce que t'es pas meilleur quand tu relativises à un moment?
Évidemment.
C'est ça.
Marion.
En fait, nous, la première qui l'a fait vraiment avec un impact hyper positif sur sa carrière, c'est Kim Clijsters. Parce que Kim, en plus, donc elle arrête une première fois sa carrière extrêmement tôt, avec un espèce de burn-out où elle en avait... elle l'avait dit elle-même d'ailleurs, je me demandais pourquoi j'étais sur ce tournoi, pourquoi je devais m'entraîner le matin, pourquoi j'étais là, qu'est-ce que j'étais en train de faire. Elle fait un premier arrêt de sa carrière, elle revient en 2009 avec aucun classement, comme l'explique très bien Sarah, à l'époque on n'avait aucune protection.
Oui.
Exactement. Et je la joue deux fois consécutivement à Cincinnati et à l'US Open sur sa route pour aller gagner l'US Open, qui est son premier grand chelem qu'elle gagne, avec cette image complètement iconique qu'on a tous en tête. Où sa fille lui court dans les bras sur le terrain, alors que Kim remporte pour la première fois son tournoi du Grand Chelem, alors qu'elle était parmi les meilleures mondiales auparavant, avant sa première arrêt, qu'elle n'y arrivait pas, et que là finalement justement de jouer pour quelqu'un d'autre, de jouer pour sa fille, de jouer devant sa famille, ça lui a donné ce surplus supplémentaire. Et en fait, ça fait prendre conscience à la WTA, qui est donc l'association des joueuses de tennis qui dirige le circuit féminin, qu'au final c'était plus un renfort pour les filles de se dire qu'il y avait la possibilité d'être maman et de revenir, que en fait comme un signe d'un arrêt de carrière, parce qu'à notre époque et on a joué en même temps sur une partie de carrière avec Sarah, d'être maman c'était la signification d'un arrêt de carrière, ce n'était pas possible de faire les deux, il n'y avait pas d'organisation des tournois, il n'y avait pas de crèche. Aujourd'hui vous allez dans les plus gros tournois, alors bien évidemment les 4 tournois du Grand Chelem, mais même les Master 1000, vous avez des endroits où vous pouvez laisser vos enfants, ou même si la maman veut par exemple aller voir jouer son mari, ou un inversement, vous avez la possibilité d'être que votre enfant soit gardé avec d'autres enfants. Vous avez les enfants de joueurs qui deviennent amis entre eux, qui finissent par grandir, par jouer au tennis ensemble. Vous avez tout un écosystème qui se crée, qui est beaucoup plus mis en valeur autour de la famille et des valeurs de la famille. Et il est vrai que dans le tennis masculin, ça s'est beaucoup fait avec énormément de succès. Roger Federer voyageait avec ses 4 enfants. Alors bien sûr, il y avait une organisation et bien sûr qu'il a des moyens financiers qui lui permettaient d'avoir cette organisation. Mais pour avoir pris le même avion de retour que lui après l'Open d'Australie, qui regagne, alors pendant un moment il n'avait pas gagné le tournoi du Grand Chelem, il était avec ses 4 enfants à l'aéroport en train de s'en occuper comme un papa, en train de monter les avions à ses enfants, en train de leur parler d'autres joueurs qui étaient en poster sur les photos, en train d'expliquer qui était Novak Djokovic à ses enfants, et d'avoir un simple rôle de papa. Et je pense que d'avoir justement cette perspective par rapport à ce qu'on fait au quotidien, c'est au contraire une force plus qu'une faiblesse. Et en tout cas, dans le tennis, c'est devenu vraiment aujourd'hui Belinda Bencic, par exemple.
Je te coupe, mais il y a aussi des
je rappelle juste que vous êtes tous parents.
on est tous parents. Oui. Il y a des, moi, tu vois, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, ça m'a un peu agacé, chiffonné, voire un peu plus, lorsque Clarisse Amenez-nous a fait son cinéma pour avoir une crèche au village olympique, etc. Tu vois, ça. En revanche, je pense que c'est un.
Oui, c'était Alison Félix. C'était Alison Félix qui l'avait. Oui, mais Alison Félix, qui est donc une athlète emblématique de, qui maintenant a pris sa retraite, mais une athlète emblématique américaine, avait poussé pour justement obtenir cette crèche. C'était pas uniquement que Clarisse qui l'avait demandé.
Ouais, et mais au Clarisse final, ça avait été que pour les femmes, et c'est ça qui m'a choqué moi, parce qu'on avait l'impression que seulement les femmes avaient le droit d'avoir leurs enfants à côté d'eux et que les hommes non. Et je trouve que c'est hyper triste qu'en 2025.
Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a quand même pour moi. En tout cas, je parle pour notre sport avec Sarah, qui est le tennis. Il y a une évolution qui est majeure. Aujourd'hui, il y a même un congé maternité pour les femmes qui prennent un congé maternité.
Vous avez eu vos enfants un peu
en aucun
arrière,
cas cette rappeler, possibilité hein. auparavant.
Pendant.
Mais Sarah et Marion.
Oui,
on t'explique un peu le principe. Toi, tu les as pas portés.
Tu n'y arriveras pas.
Moi, j'ai une question pour les.
Je les porte pas, mais tu as. Alors là, pour le coup, mais bien sûr que c'est pareil.
Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil physiologiquement. Tu peux pas dire.
Non, mais je dis pas que c'est pas pareil. Non, dans le.
Mais ça dépend de l'implication que tu veux avoir au sein de ta famille. T'as des gens.
Sur le débat,
t'as des hommes qui ont des carrières professionnelles qui les emmènent à l'autre bout du monde. Ils font une famille et ils les voient moins qu'un sportif qui.
Évidemment, mais ce que je veux dire, que
toi, par exemple, qui allait faire ses courses et qui revient.
Arrêtons de nous situer dans une sphère. Unique, le patron des plus grandes multinationales, il part pas en voyage d'affaires avec ses enfants. Hein.
Mais évidemment. Moi, j'ai une question pour les deux femmes de la table. Quand vous voyez Valériane Ayahi, qui était enceinte quand elle a joué les Jeux Olympiques en 2000.
Internationale française de basket.
Internationale, et elle a joué, elle était enceinte de 3 mois et demi. Mmh. Elle le savait.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous inquiète? Parce que c'est un sport quand même.
Non, parce qu'il y a des joueuses de tennis
qui ont joué en étant enceintes.
Alors, je suis d'accord, vous reconnaîtrez au moins que le basket, c'est un sport de contact et pas le tennis. Et donc, de ce fait, est-ce que ça vous inquiète un tout petit peu plus? Est-ce que le fait de se dire, il y a quand même ce danger d'un bébé, que tu joues des contacts, tu peux tomber, tu peux prendre des gros coups, est-ce que ça vous inquiète ou vous pensez que c'est logique, c'est dans l'ordre des choses? Moi, je trouve ça normal,
logique,
c'est dans l'ordre
des choses. Ce sont, en fait, je me permettrai pas de juger, ce sont des choix qui sont personnels. J'ai un trou de mémoire, mais il me semble d'avoir lu une histoire d'une, alors est-ce qu'elle était française ou pas, d'une marathonienne qui courait. Elle était enceinte de 6 mois et elle faisait encore des marathons. Je me positionne.
Serena a gagné l'Open d'Australie en étant enceinte. Hein.
C'est très personnel. Et je pourrais pas prendre de position. Je pourrais pas dire ah mais comment elle a fait. C'est trop dangereux. C'est très personnel.
Moi je l'ai vécu. Alors encore une fois comme homme, comme une avancée énorme. Se dire qu'on peut continuer à pratiquer le sport avec
en étant enceinte. Non mais tu sais que quand on est enceinte, mais tu peux décupler ta
même si on revient sur le sport individuel où il y a pas de contact, je parle de sport où il y a du contact.
Si on revient sur le thème débattu depuis quelques minutes sur le fait d'être compatible avec une vie de famille, d'être athlète de haut niveau et de jouer pour une femme qui est enceinte, pour un homme, c'est en fait, toute la difficulté, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, c'est de ne pas devenir plus père qu'athlète, plus maman qu'athlète, parce que ne jamais perdre le fil, que c'est notre job.
Mais c'est ça ce que dit Lewis Hamilton, d'une certaine façon. Il dit, moi, je ne serais pas
capable de laisser
de la place.
Mais c'est trouver l'équipe, mais regarde Cristiano et Messi, sont parfaitement arrivés à le faire.
Oui.
Enfin, je veux dire, si on ne s'y met même pas au tennis.
C'est aussi très, très visible chez certains athlètes, c'est là où je voulais en venir, parce que le montre, parce que d'être compatible avec ta vie de famille, c'est très bankable aujourd'hui de montrer que tu as ta famille autour de toi, etc. C'est souvent dans des sports où il y a beaucoup de moyens.
Évidemment.
C'est plus simple, par définition, c'est plus simple, parce que t'es plus accompagné, l'organisation est plus
facile. Est-ce que ça, c'est la logique?
Quand je dis vie de famille, c'est que c'est pas que tu pars 250 jours et que ta famille, elle grandit ou elle s'élève sans toi.
Et le jour où, moi je l'ai vécu, Fred, avec des séparations, moi j'ai vécu le divorce après ma carrière, autant te dire que si demain Cristiano ou Messi ou autre se frite avec leur madame, il y a bien moins de reportages. Le plus compliqué pour moi, c'est de l'après. Le pendant, finalement
la pré-carrière de haut niveau et la vie de famille que tu as construite.
Non, mais là, par exemple, il y a un exemple concret avec Andy Murray. Andy Murray, il a eu 4 enfants. C'était très difficile pendant sa carrière. Sa femme a fait beaucoup de sacrifices pour essayer de que les enfants suivent Andy, etc. Parce qu'il a joué pendant extrêmement longtemps. Et là, typiquement, il y a des opportunités pour lui de coaching qui sont venues. Et sa femme lui a dit non, c'est terminé. Je ne veux plus te voir voyager. J'ai accepté que tu voyages pendant ta carrière. On a fait beaucoup d'efforts. Maintenant, tu restes à la maison et tu t'occupes de tes enfants. Donc, je pense que là où je rejoins totalement Jérôme, c'est que c'est finalement en carrière, effectivement, les épouses ou les époux respectifs acceptent de faire des efforts parce qu'ils comprennent que la carrière est en jeu. Je pense qu'une fois que la carrière est terminée, il faut aussi accepter de se poser.
C'est très dur. En fait, c'est pas faire des efforts. C'est-à-dire que c'est le changement et de la vision de l'autre.
Oui.
Est-ce que je t'accompagne jusqu'au bout de ma vie ou est-ce que je t'accompagne jusqu'au bout de ta carrière? Dis-le-moi. On sait qu'à un moment donné, il y a un stop. Moi, j'ai vécu deux carrières. En fait, j'ai arrêté ma carrière de cycliste et j'ai monté une équipe. Je pense que le deuxième métier m'a pris beaucoup plus de temps. Et plus de temps, pas du temps. C'était pas chronophage, c'était dans la tronche. Tu décroches pas quand t'es pas dans l'entreprise avec 150 employés, tu peux pas décrocher. Là, moi, j'ai senti à la maison que ça décrochait. Mais moi, j'ai pas changé en fait. Mon job était toujours le même. C'est l'acceptation de l'autre qui peut-être est limitée. Et on le comprend. Aujourd'hui, moi, je vis ma vie et je suis en très bon terme avec la maman de mes filles. Par contre, je sais que c'était finalement pas la bonne personne sur l'ensemble de mes choix de ma vie.
Après, il faut regarder la NBA, par exemple, le taux de divorce est incroyable. Bah,
regarde le cyclisme déjà.
Mais pourquoi ?
Mais
c'est super simple. Il y a une explication très logique.
C'est-à-dire
que pendant ta carrière, t'es jamais là. Tu voyages tout le temps, tu fais ce que tu veux.
Tu n'as jamais vécu en couple.
Tu n'as jamais vécu en couple et d'un seul coup, tu rentres à la maison et ta femme, elle te regarde en disant « Ah ouais, mais t'es chiant en fait. »
Repars jouer, c'est mieux.
Repars jouer. Et finalement, la plupart divorcent à cause de ça. C'est pas que dans le basket, ça arrive très souvent.
C'est le cas de beaucoup de sports en fait. L'idée, c'est quoi ? C'est que moi, aujourd'hui, tu me dis... t'es en mouvement en permanence. Et aujourd'hui, ma compagne me dit, bah, c'est cool parce qu'on aime ça, parce qu'on bouge. Demain, tu me mets dans un bureau ou dans un magasin à faire que ça. T'es aussi très désagréable. En fait, c'est pour ça que je te dis que c'est la vision.
Tu vas devenir désagréable.
Il y a la vision de l'autre et le quotidien aussi.
Il ne faut pas oublier quelque chose.
Et ça dépend du sport.
Pour Lewis Hamilton, et d'ailleurs, je crois qu'il y a d'autres pilotes qui en ont parlé, il y a la prise de risque. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, pour la Formule 1,
est-ce que tu prends moins de risques?
Est-ce que tu pilotes de la même manière? Est-ce que, enfin, je veux dire, c'est pas du tout comparable avec nos sports respectifs.
Et je pense que en Formule 1, c'est sûr que non.
Je pense que tu dois piloter, mais différemment, ou en tout cas, ton approche, elle est forcément différente.
Il y a une thématique qu'on n'a pas évoquée jusqu'à maintenant et qu'on entend souvent chez les parents sportifs, mon enfant ne m'a pas vu jouer. Mon enfant ne m'a pas vu performer. Justement, je suis content que sur la fin de ma carrière, mon fils, ma fille, ait pu être là au moment où j'ai été médaillé. Sarah Marion, vous avez vos enfants après votre carrière, mais ça fait partie des réflexions. Vous avez fait, j'aurais bien aimé que mes enfants m'aient vu jouer. Ou vous, les sportifs, Fred et Jérôme,
j'ai eu la chance d'avoir les deux.
C'était important pour vous.
Et alors, honnêtement, j'ai adoré que mon fils puisse me voir jouer. Alors malheureusement, il comprend pas tout, mais moi, le fait de l'avoir à la salle, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi.
Ça donne un supplément d'âme. Ça donne une énergie supplémentaire.
En fait, tu dis que tu joues pour quelqu'un.
Moi, je joue pour quelqu'un d'autre.
Je suis d'accord avec toi, pour retrouver de la motivation, il n'y a rien de mieux que des enfants. Parce que quand toi, tu es au bout, tu n'y arrives plus, tu dis, je le fais pour quelqu'un, j'ai envie de lui montrer des choses. Et j'ai eu des enfants un peu plus tard après. Et c'est vrai que je regrette un petit peu qu'elle ne m'ait pas vu jouer. Pour elle, je serais toujours le blaireau qui parle à la télé ou à la radio. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'à un moment, j'étais à un moment j'étais plus beau et à un moment je courais vite et je faisais longtemps, je n'avais jamais les cheveux. Et c'est un peu dommage.
Moi, j'ai pas ce regret-là. Mes filles m'ont pas connu sur un vélo, la grande un peu plus, Lou. Et j'ai pas ce regret-là. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie qu'elle traîne ça et j'ai pas envie qu'elle se souvienne de ça que pour ça. T'as été absente, t'as été loin de la maison parce que tu faisais du vélo, tu vois. Ce truc-là, non. Par contre, moi, j'ai deux choses qui ont radicalement changé en 2006 quand la première est arrivée. C'est d'une, je pense que j'ai commencé à travailler en 2007. C'était plus une passion, c'était un boulot parce que tu te dis là maintenant, faut y aller. Il y a du monde derrière. Et la deuxième chose, c'est que j'ai plus fait un sprint.
Tu voulais plus prendre de risques.
Et c'est inconscient.
Ouais, en fait, j'ai fait il y a un an et demi un exercice avec un journaliste pour raconter un peu ce que j'avais vécu dans ma carrière et l'après surtout, parce que pendant c'est pas passé grand chose. Et en fait, on a retracé un peu le palmarès et je me dis, ah bah oui, c'est vrai. Depuis 2006, je n'ai plus fait un sprint massif. Lou est né en mars 2006, tu vois.
Alors que Jérôme, aujourd'hui, serait peut-être à 50 victoires. Il aurait passé
Marc Cavendish. Moi, c'est un regret, en tout cas, que ma fille n'ait pas pu jouer.
C'est vrai, prenait des risques pour rien faire.
Ah ouais, c'est encore pire.
T'aurais aimé que ta fille soit à Wimbledon, par exemple.
Ah, grave. Mais et du coup, j'ai ma petite micro-revanche. Parce que j'ai joué le tournoi des légendes et Camilla avait 2 ans et demi, donc elle se rendait quand même un tout petit peu compte. Et j'ai gagné devant elle, ma vie avec le trophée, j'étais trop fière.
Moi, surtout pas.
Sarah, surtout pas.
Ah non, on va aller mieux pas. parce que j'avais un comportement qui était un peu excessif sur le terrain.
Un peu excessif.
J'ai dit un peu parce que il faut aller sur l'INA pour retrouver les images, donc je suis un peu tranquille. Mais non, franchement, ça n'aurait pas été une bonne idée.
Qu'est-ce que tu vas me dire sur les To Be Free ou quoi?
On va évidemment aller sur l'INA pour aller retrouver ses meilleurs moments. Je voulais pas écouter. On referme la porte du vestiaire, les GG. C'était hyper intéressant et touchant de vous écouter comme parents sportifs. Finalement aussi, les projets de famille et vie sportive de haut niveau, est-ce compatible? On a bien compris que c'est un débat bien complexe et personnel pour chacun d'entre vous. Dans quelques instants, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, le ballon d'or. Dembélé serait-il plus grand que Mbappé s'il gagne? On revient dans quelques instants, vous attend au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.